Voilà, pour cette journée d'entrée dans la carême, je me suis dit qu'il serait peut-être bon d'approfondir un peu l'Esprit Saint, la connaissance de l'Esprit Saint et comment se mettre à l'école de l'Esprit Saint. Mais avant d'aller vraiment vers ça, je vais un peu le resituer dans la Trinité et aussi regarder l'aspect trinitaire de l'homme dans lequel l'Esprit aussi intervient. Alors, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint? Et comment le faire de plus en plus entrer dans notre vie? Avant de répondre à cette question, comme je vous disais, il est bon de resituer la Trinité et l'aspect trinitaire donc de l'homme. Mais avant d'aborder tout ça, avant d'aborder donc comment se mettre plus à l'école de l'Esprit Saint. La Trinité. Nous savons tous qu'un des dogmes de l'Église, c'est la Trinité, c'est-à-dire que Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais on peut se poser une question, est-ce que le sens du mot « personne » dans la formulation d'aujourd'hui, un Dieu en trois personnes, est bien choisi? Et est-ce que les mots utilisés traduisent bien le sens initial que l'on trouve dans la Bible hébraïque, l'Ancien et le Nouveau Testament? Dans la langue d'origine en hébreu, on parle de panim, panim qui signifie la face, la figure. Panim dérive du verbe pana, qui signifie se tourner vers, regarder vers, s'approcher de. En grec, on va traduire par prosopone, qui se décompose en pros, qui veut dire vers, dans la direction de, et ops, qui signifie la vue, le visage. Le prosopone, c'est ce que l'on regarde, ce que l'on envisage, c'est la face, c'est la figure. Et par extension aussi, c'était devenu le masque de l'acteur de théâtre, et par la suite, le rôle et le personnage de théâtre aussi. Et c'est ainsi qu'on en est venu au sens de personne. Sens qui a été renforcé avec Jésus-Christ qui apparaissait, lui, comme un être vivant parmi nous, un être humain. En latin, persona évoquait aussi le masque de l'acteur, à travers lequel passe le son, passe la voix, passent les intonations. Puis, par extension aussi, ça a été le rôle, le personnage de théâtre. Ainsi, persona, pour les latins, rejoignait le prosopone des grecs. Et ça a été traduit en français par personne. Dans les psaumes, on utilise 52 fois le mot « face ». Exemple, « Seigneur, fais briller ta face et nous serons sauvés ». Dans l'évangile de Jean, c'était « Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face » en parlant du Père. Et puis Jésus dira aussi à Philippe « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Aujourd'hui, lorsqu'on parle des trois personnes de la Trinité, on voit trois personnes distinctes. Dieu le Père, comme c'est mis sur l'icône ici, Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit, qui sont un seul et même Dieu. Alors c'est difficile pour la pensée humaine, parce que l'on a perdu ou oublié le sens premier qui était la face. Qu'est-ce que la face? La face, c'est ce qui nous est donné de voir, de et par la personne. Derrière la face, il y a bien sûr l'être, que l'on ne peut définir, mais qui est son intimité, son secret. Le sens primitif s'est ainsi édulcoré dans la traduction latine et encore plus dans le français avec le mot « personne », qui bien souvent pour nous n'a plus le sens de face, de visage ou de figure. Pour les premières communautés de chrétiens, cela devait pourtant être clair, mais ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Là où les chrétiens de langue grecque disaient « il y a en Dieu trois visages ou trois faces », Leur frère latin disait, et nous le disons aussi maintenant, « Il y a en Dieu trois personnes ». Pour les premières générations chrétiennes, cela signifiait « Dieu est un seul être qui se présente selon les circonstances sous trois aspects, trois visages ou trois figures différentes ». C'était du concret pour eux. Il y avait ainsi Dieu le Père, qui est le principe, celui qui engendre, c'est la source, c'est l'origine, qui est et qui n'est de personne. Il engendre prééternellement, perpétuellement. Il est le Créateur, appelé aussi le Père de toutes choses, celui qui donne l'être, qui donne la vie, qui donne de quoi vivre par sa création. La deuxième personne, alors, ou la deuxième face qui nous est montrée, c'est le Christ, c'est Jésus de Nazareth, qui appelle d'ailleurs Dieu son Père, et qui se dit comme le Fils de Dieu, parce qu'il est avec Dieu dans une relation spéciale, une relation de filiation. Le Christ en lui, par nature, la puissance de Dieu, pour guérir, la sagesse et la science de Dieu pour enseigner. À la création, lorsqu'on lit dans la Genèse, Dieu dit et la lumière fut, dit, c'est le Dieu parole, le Dieu verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. C'est le Dieu créateur. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Quand il dit ça, c'est parce que ces paroles sont prononcées justement par le Verbe, par la parole, par le Logos, tel le Logos qu'elle donne la vie éternelle. Si c'était prononcé par moi, ça ne donnerait pas la vie éternelle. Dieu s'exprime ainsi par la parole. Par le Christ Dieu, il nous montre sa face. Il se donne à voir. Il y a Dieu et la face de Dieu qui brille, qui éclaire, qui est lumière. Et c'est le Christ Dieu s'est incarné pour se rendre, et le Christ Dieu s'est incarné pour se rendre visible à l'homme. Son Fils a été engendré divinement depuis toute éternité et engendré humainement par Marie. Alors l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, qui est un peu l'objet de l'exposé du jour, lui s'est manifesté en enseignant les prophètes, et il continue de se manifester en donnant aux apôtres et à nous la science de Dieu, l'intelligence, la force, l'amour, la foi, l'espérance, la paix. Ce n'est plus ici la parole qui est agissante, mais c'est le souffle qui anime, qui donne la vie. Les noms de l'Esprit sont d'ailleurs souffle ou souffle de Dieu, vie, esprit de vie, feu, langue de feu, vent, haleine de vie, mouvement, inspiration, ivresse, donateur de vie. Il y a une multitude de noms pour l'Esprit Saint. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est ce qui est dit dans la Genèse, le deuxième chapitre, au verset 7. L'Esprit, ainsi, est le seul artisan du progrès spirituel pour l'homme. Chaque fois que l'Esprit Saint intervient, il y a un changement qui se passe dans l'homme. C'est ce qu'on avait vu à la création de l'homme et c'est ce qu'on peut voir encore tous les jours. C'est une énergie de vie qui est communiquée. D'ailleurs, lorsque l'on rend son dernier souffle, tout mouvement va s'arrêter. La vie qui animait un corps n'est plus. Il ne reste que le cadavre inanimé. L'Esprit procède du Père. Cela veut dire aussi qu'il émane de lui. C'est une autre face de Dieu qui se donne. L'Esprit existe aussi de toute éternité, comme le Père et comme le Fils. À nouveau, dans la Genèse, au verset 2, il était mis du chapitre 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux, des eaux, pardon. Les chrétiens, ils connaissaient, ils avaient reçu du judaïsme la doctrine de la parole créatrice de Dieu et la doctrine de l'Esprit de Dieu communiqué aux prophètes. Ils savaient que Dieu, dans son principe, que la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu, ce ne sont pas trois dieux différents, mais un seul Dieu qui crée par sa parole, qui communique sa parole à l'homme pour continuer de le créer et qui communique son Esprit Saint pour renseigner l'homme du dedans. C'est par cet acte d'amour inouï que cette révélation, l'incarnation du Christ Yeshua de Nazareth, a été possible. Dieu s'est donné à voir concrètement par l'intermédiaire de son Logos, de sa parole, qui a pris chair, c'est-à-dire qui a pris notre nature humaine. Rappelez-vous les paroles de Jésus à Philippe. Comme je vous disais, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, à travers le Christ, il nous était possible de voir la troisième face, donc la face du Père. En méditant sur sa mort, sur sa vie, sa résurrection, sur sa naissance, aussi son enseignement, sa puissance d'amour, sa sainteté, les chrétiens sont parvenus, grâce à l'intelligence donnée par l'Esprit même de Dieu, à reconnaître que Jésus, Yeshua de Nazareth, c'est Dieu lui-même venu habiter parmi nous, afin de se faire connaître et de nous enseigner la science de la vie éternelle, de nous enseigner quelle est notre destinée divine. Lorsque nous disons que Dieu est amour, c'est parce que ce qu'il nous fait connaître de lui, c'est son amour. Et la Trinité en est l'image qu'il nous donne. Chaque personne divine contient toute la nature divine, avec les mêmes caractéristiques, la même gloire, la même puissance d'amour. Elles sont différentes, mais elles ne sont pas divisées. Il n'y a pas d'opposition entre elles. Chacune est tournée vers l'autre et se donne complètement à l'autre et se reçoit de l'autre. Chacune ne vit que pour l'autre et par l'autre. Chaque personne a aussi, malgré tout, sa spécificité. Je vous rappelle donc, le Père est la source de l'amour, nous disait saint Basile le Grand. Il en est l'origine. Il se donne complètement sans parce que, sans but, sans cause. Il ne procède de personne, c'est ce qu'on appelle son innascibilité. Le Fils est engendré du Père. Il est le Fils monogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre personne qui intervient dans sa création. Le Fils se reçoit du Père, c'est sa filiation. Il est la manifestation, la concrétisation de cette source de l'amour qui sort du Père. Il est le Verbe de Dieu, il est sa parole. Il est l'image parfaite du Dieu invisible. C'est le Fils qui nous ouvre la voie vers la déification, vers notre salut, en partageant notre condition humaine. L'Esprit, comme on dit, procède du Père. Donc sa source, c'est aussi le Père. Il n'y a aucune notion de supériorité ou d'infériorité avec le Fils. L'Esprit est la richesse de l'amour, peut-on dire. Si le Fils nous montre comment Dieu agit, l'Esprit nous communique comment Dieu agit. Il y a avec l'Esprit, comme je vous disais, une notion de mouvement, une notion de vie, une notion de souffle. Et le Christ dira, « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Personne ne peut affirmer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint. Si le Fils a rendu visible l'invisible, l'Esprit donne vie avec un grand V à notre vie. L'Esprit souffle où il veut, mais ce où il veut, c'est en chacun d'entre nous. Passons maintenant, après cette présentation, donc un peu de la Trinité, présentation rapide, j'en conviens, à l'aspect trinitaire de l'homme. Saint Grégoire de Nyssa disait que l'homme est l'instrument de musique animé par l'esprit et créé à l'image de Dieu. Il est le reflet de la beauté divine. Avant tout, il est une merveille de Dieu. Dans son être profond sont inscrites les qualités divines dont l'amour est la synthèse. Ainsi, on peut dire que c'est l'amour qui est originel en l'homme et non le péché. C'est la liberté qui est originelle et non l'esclavage. C'est la joie qui est originelle et non la tristesse. C'est la santé qui est originelle et non la maladie. Chaque homme ou chaque femme est invité à expérimenter la divine Trinité pour avancer sur son chemin de déification. C'est-à-dire qu'il doit établir son contact personnel avec chacune des trois personnes divines. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est toujours porteur de l'image. Mais en se détournant de Dieu, il a laissé échapper la ressemblance. Restaurer en lui la ressemblance ne peut se faire que par un retournement, un retour à l'équilibre, un retour à la juste hiérarchie intérieure de l'être. L'homme est aussi un être trinitaire avec trois composantes, un corps, une âme et un esprit. Nous connaissons tous le monde matériel, où on peut entrer en contact avec lui, avec nos cinq sens. C'est le cosmos immense, si loin et pourtant si proche de nous, avec sa notion de l'espace-temps, sur laquelle s'appuient nos connaissances physiques de la matière. Mais il y a aussi à côté le monde angélique, le monde noétique ou spirituel, qui a aussi été créé, mais qui n'a pas de matière, qui n'a pas le temps que nous connaissons. Son espace n'est pas notre espace, il est immatériel. C'est le domaine des anges et de l'Esprit de Dieu. Et l'homme est une créature particulière, un peu perdue dans ces deux mondes, je vais dire. Il est un élément infinitésimal du cosmos, habité et perdu dans le monde noétique. Il est ainsi le dialogue permanent entre l'Esprit de Dieu et la matière, entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est par cette conscience de l'Esprit que l'homme est plus qu'une bête intelligente. L'être humain est et a corps, âme, esprit. Il faut bien distinguer l'âme de l'esprit. L'âme appartient encore, peut-on dire, au monde réel. L'âme est riche en émotions, en pensées, en réflexions, en intelligence. C'est ce qu'on peut résumer par le mot psychique ou psychologique. Avec le corps, elle va former ce que l'on appelle la chair, ou aussi le psychosomatique. La caractéristique essentielle de l'âme, c'est la variation perpétuelle. Elle est instable. Elle a, comme on dit d'ailleurs en langage courant, des états d'âme. Et cela influence sur notre façon d'être au monde. L'esprit, qui habite l'homme, appartient, lui, au monde noétique et spirituel. C'est ce que l'on appelle parfois aussi le nous, logos intérieur ou le pneuma. L'âme et le corps agissent en relation. Et l'âme est l'intermédiaire psychique entre le corps et l'esprit. Si l'âme et le corps se combinent différemment pour faire de chacun d'entre nous un être humain unique, l'esprit, lui, est unique. L'unité de l'humanité ne pourra d'ailleurs se faire que par l'esprit. Si notre corps et notre âme sont nés de nos parents biologiques, l'esprit ne naît pas avec l'homme. Il est immortel par participation à la divinité. Il est en dehors du temps. C'est par lui que notre pensée, notre mémoire peut saisir un événement passé. Toute la création parle de Dieu. Elle est le fruit de sa parole. Et dans l'esprit, le nous, c'est Dieu qui parle. L'âme est bavarde, le nous, il écoute Dieu dans le silence. Il va falloir nous intérioriser justement et entrer dans le silence pour trouver le nous, l'esprit qui nous habite. Le nous se nourrit de Dieu, normalement. Le nous a la faculté de se dépasser, car son désir de Dieu est infini. Il est tourné vers la divinité. Le corps et l'âme seuls ne peuvent pas, car ils sont limités par les contraintes physiques, les lois de la nature. L'âme est, comme je vous disais, par nature changeante et instable, mais elle peut s'élever si elle est entraînée par le nous. Elle peut alors participer à la connaissance et s'élever à l'intelligence divine au-delà du rationnel, de la déduction, des émotions, de la logique. C'est via le nous que la grâce, la lumière divine, va pénétrer l'âme et le corps. Quand le nous s'unit à la lumière, on est saisi par la lumière divine. On a l'impression qu'il n'y a plus de différence entre lui et Dieu. C'est une transfiguration, comme celle qu'ont vue les apôtres sur le mont Tabor, ou comme saint Séraphin de Sarov et son disciple Motovilov. Je vous lis un petit peu ce qu'il s'est rencontré enfin de l'Esprit Saint chez saint Séraphin de Sarov et son disciple Motovilov. Il disait, saint Séraphin, « Le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit de Dieu, tandis que la prière, le jeûne, l'aumône et les autres actions vertueuses faites au nom du Christ ne sont que les moyens pour l'acquérir. Comment alors, demandai-je au Père Séraphin, pourrais-je reconnaître en moi la présence de la grâce de l'Esprit-Saint ? Alors le Père Séraphin me prit par les épaules et les serrant très fort dit, « Nous sommes tous les deux, toi et moi, dans la plénitude de l'Esprit-Saint. Pourquoi ne me regardes-tu pas ? Je ne peux, Père, vous regarder. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. J'ai mal aux yeux. » Et le Père Séraphin dit, « N'ayez pas peur, ami de Dieu. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous aussi, vous êtes à présent dans la plénitude du Saint-Esprit. Autrement, vous n'auriez pu me voir. » Le rôle de l'âme est ou de se spiritualiser, comme je viens de vous dire, ou de s'incliner vers le corps et le matérialiser. Cela va dépendre du choix libre de l'homme et de la nourriture qu'elle va recevoir. Le nous humain, l'esprit humain, comme je vous disais, a une essence divine, telle qu'il est capable de connaître Dieu. Il est, lui, à la ressemblance de Dieu, parfaite. Alors que le corps et l'âme sont à l'image de Dieu, car comme tout l'univers, ils sont un don de Dieu. La ressemblance, c'est plus une acquisition, c'est un progrès qui va se réaliser avec la volonté libre de l'homme. Pour bien comprendre cela, il faut voir la hiérarchie naturelle en l'homme, entre ces trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, qu'est-ce que la hiérarchie, justement ? C'est l'équilibre naturel de l'homme. L'esprit de Dieu va nourrir l'esprit de l'homme, le nous, qui va nourrir l'âme, qui elle-même va nourrir le corps. Souvent, nous n'avons pas conscience de la hiérarchie, de la relation naturelle, la relation normale que Dieu, en créant le monde, a mis dans l'homme. L'esprit est tourné vers Dieu, et comme je vous disais, s'alimente de, par et en Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est la seule nourriture qui lui convient vraiment. Mais quelle nourriture ! Lorsque l'homme se détourne de Dieu, coupe la relation avec Dieu, inévitablement, une coupure se produit entre l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de l'homme qui veut vivre. Celui-ci n'a plus alors la nourriture, la source qui l'alimente normalement. Il est désorienté et il se tourne vers l'âme. Et au lieu de lui donner sa force, de l'alimenter, de l'éclairer, de l'élever, de la purifier, il en devient un parasite pour celle-ci. Au lieu d'être tourné vers le niveau supérieur, il est tourné vers le niveau inférieur. L'esprit, comme je vous le disais aussi, est de caractère absolu. L'âme, de caractère relatif et inconstant. L'âme étant parasitée par l'esprit, elle va donner une étiquette d'absolu aux choses qui ne sont pas absolues. L'âme est alors alourdie et ne recevant plus son soutien, elle va se tourner à son tour vers le corps. Et nous avons l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui dont l'âme veut se nourrir et jouir par les choses matérielles, corporelles. Il n'y a plus d'élévation vers Dieu. L'âme cherche dans le corps ce qu'il ne peut pas lui donner. Le corps en est bouleversé, et vers quoi va-t-il se tourner, lui, vers quoi évolue-t-il ? Vers l'exploitation sans limite des biens matériels, vers les passions, la maladie et la mort. C'est vers l'anéantissement. C'est le processus d'ailleurs de ce qu'on appelle l'entropie qui est à l'œuvre. C'est aujourd'hui la situation de l'humanité coupée de Dieu. Je vous rappelle que l'entropie, c'est ce qui se passe normalement lorsque un système est complètement isolé. Il ne peut faire qu'aller vers le chaos. C'est-à-dire que toute son énergie va se dégrader continuellement et aller vers une uniformité au plus bas niveau d'énergie. La guérison, la métanoïa, va être de revenir dans la juste hiérarchie. Réhabituer le corps à vivre par l'âme, élever l'âme qu'elle s'alimente à l'esprit et rediriger l'esprit vers l'esprit de Dieu. Cela ne sera possible que si nous fournissons un effort de prise de conscience de cette réalité, un effort de détachement, de purification de nos pensées, de travail sur nos passions. La passion, c'est quand le supérieur est justement asservi à l'inférieur. Exemple, si vous bénissez Dieu lorsque vous mangez un bon plat, vous vous régalez, c'est magnifique. Si vous remerciez pour le délicieux vin que vous avez bu, c'est bien. Mais si ce plat, parce qu'il est bon, devient un sujet de convoitise, notre âme et même notre esprit vont lui donner un caractère absolu. Il va occuper nos pensées, il va devenir une idole et peut nous conduire à des actes violents. Ce plat devient ainsi notre Dieu. Pour un orgueilleux, sa réussite devient son Dieu. Pour un avare, l'argent devient son Dieu. Pour un jaloux, la puissance devient son Dieu. Chaque fois, nous absolutiserons toutes les choses relatives. La passion est toujours un détournement justement des directions de l'homme intérieur. Le monde au sens biblique, c'est le complexe des passions, la mauvaise direction de notre esprit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, disait Jean. Oui, nous vivons dans le monde, le complexe des passions, mais il faut savoir que ce n'est pas notre condition ontologique. Le retour à la hiérarchie naturelle, c'est de se retourner vers Dieu, de rétablir la communication avec Dieu, avec son esprit, et remettre l'esprit de l'homme à sa juste place, à la place royale de la triade, esprit, âme et corps. Rétablir la juste hiérarchie, c'est devenir saint. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la sainteté ? Être saint, c'est être pleinement habité de l'Esprit Saint, habité par l'Esprit Saint. La sainteté n'est pas une perfection morale, une vie d'ascèse, une vie de renoncement, mais c'est une vie de transformation, d'ajustement continuel. La sainteté est un don gratuit qui est destiné à chacun de nous. il n'y a pas qu'un modèle de sainteté, car chacun est unique et il va vivre la présence divine en lui selon sa propre personne. Maurice Zundel disait « La sainteté pour un chrétien, ce n'est pas autre chose que le rayonnement de la présence même de Jésus-Christ. La sainteté pour un chrétien, c'est quelqu'un. La sainteté pour un chrétien, c'est la vie divine. C'est la vie éternelle qui s'imprime déjà maintenant en nous, qui s'enracine dans toutes les fibres de notre être et qui devient un témoignage lumineux de la présence de Dieu. » Ce qui est nécessaire sur les chemins de sainteté, c'est l'humilité et l'acceptation que sans l'aide de l'Esprit, nous ne pouvons rien. À la question de ses disciples, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Plus nous serons humbles, que nous prendrons conscience combien nous avons besoin de Dieu dans notre vie, et plus nous allons nous ouvrir à la grâce de l'Esprit-Saint. Olivier Clément écrivait « La sainteté, c'est la vie enfin libérée de la mort. » Lorsque l'on s'ouvre à l'Esprit-Saint, nous allons élever vers Dieu avec notre esprit, notre âme et notre corps. Nous sortons de notre temps humain pour réentrer dans le temps divin. Dans son entretien, toujours avec Motovilov, après leur transfiguration, après la constatation de la lumière aveuglante qui émanait d'eux, saint Séraphin de Sarov demandait à son disciple Motovilov, « Que sentez-vous maintenant ?»« Je me sens extraordinairement bien. »« Comment bien ? Que voulez-vous dire par bien ?»« Mon âme est remplie d'un silence et d'une paix inexprimable. »« Que sentez-vous encore ?» Une douceur extraordinaire. Mais que sentez-vous encore? Une joie extraordinaire dans tout mon cœur. Que ressentez-vous encore, ami de Dieu? Une chaleur extraordinaire. Comment une chaleur? Ne sommes-nous pas dans la forêt en plein hiver? De quelle chaleur s'agit-il? D'une chaleur comparable à celle d'un bain de vapeur. Et l'odeur, elle est comme au bain. Oh non, non, rien sur terre ne peut se comparer à ce parfum. Et le père Séraphin sourit. Je le sais, mon ami, c'est la bonne odeur du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut sur terre lui être semblable? La chaleur n'est donc pas dans l'air, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà ce que c'est que d'être en la plénitude de l'Esprit-Saint. Je ne sais, Père, si Dieu me rendra digne de me le rappeler toujours avec autant d'honnêteté que maintenant. Alors comment faire pour rétablir la juste hiérarchie en nous et redonner la place à l'Esprit-Saint pour avancer sur le chemin de sainteté? Nous pensons souvent que devenir saint se fera avec nos propres forces. Nous nous fixons un programme de vie qui va dans ce sens. Et nous disons que c'est une question de volonté, de courage, de patience. Croire que la sainteté viendra par la réalisation de ce programme est une douce illusion. Pourquoi? Parce que la tâche, elle est au-dessus de nos forces. Seul, sans la grâce divine, devenir saint est une mission impossible. D'ailleurs, le Christ nous le rappelle, enfin, dans les paroles de saint Jean, disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quels que soient nos efforts, nous ne pourrons nous changer nous-mêmes au niveau spirituel. Seul Dieu, par son esprit, peut nous transformer, nous transfigurer et nous faire entrer dans la voie de la sainteté. Notre nature humaine, elle est limitée. Notre seule action, c'est de se mettre en capacité de se laisser aimer par celui qui peut tout. Le Seigneur avait dit à Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. » Se faire capacité, c'est entrer dans un chemin d'humilité, arrêter de vouloir nous en sortir seuls et laisser agir la puissance d'amour de Dieu. Accepter nos pauvretés, accepter nos faiblesses, accepter nos limites. Le secret de la sainteté, c'est de découvrir que nous pouvons tout obtenir de Dieu si nous avons confiance dans l'amour infini de Dieu. Dieu nous aime comme un père. Sainte Thérèse de Lisieux disait « Dieu a un cœur de père et nous pouvons infailliblement obtenir de lui ce qui nous est nécessaire si nous savons le prendre par le cœur. » L'autre chose, pourquoi c'est impossible pour l'homme, c'est parce que Dieu seul connaît le chemin de chacun. Il y a autant de formes de sainteté et donc de chemin qu'il y a de personnes. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous uniques. La sainteté, ce n'est pas la réalisation d'un modèle de perfection identique pour tous, mais elle est le résultat d'une rencontre de cœur à cœur. Notre sainteté nous est dévoilée en fonction de notre confiance en Dieu. Nous ignorons en quoi consiste et consistera notre sainteté. Elle est souvent différente de ce que nous voudrions, de l'image de perfection que notre petit moi veut montrer et à laquelle il s'accroche. Dieu seul va pouvoir faire de nous un chef-d'œuvre unique de sainteté. Laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons qu'imiter ce que d'autres ont fait. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous allons recevoir des signes, des inspirations. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Il s'agit de ces sollicitations intérieures, de ces mouvements de l'Esprit Saint dans le fond de notre cœur, dans l'esprit, dans le nous déposé en nous. C'est par lui que Dieu nous fait connaître ce qu'il veut et en même temps qu'il nous donne la force nécessaire pour l'accomplir. Au début, la difficulté vient de comment discerner et accueillir dans la confiance ses inspirations. Dans les Écritures, le Christ a énuméré de manière générale ce qu'il attend de l'humanité. Si nous avons le désir de la perfection, nous avons tant de choses, tant de vertus à mettre en œuvre que nous ne savons pas par où commencer. Ce n'est pas toujours ce que nous pensons spontanément que Dieu nous demande. Ce qui nous semble spontané est souvent le fruit des mouvements de notre âme, influencés par notre éducation. C'est là que les inspirations sont précieuses pour bien orienter nos efforts et ne pas nous disperser ou faire plus que ce que Dieu nous demande, et ainsi nourrir notre orgueil et notre vanité. Une des lois spirituelles fondamentales est que nous obtiendrons la grâce d'être fidèles dans les choses importantes qui nous sont, pour le moment, impossibles, à force d'être fidèles dans les petites choses à notre portée, surtout si ces petites choses sont celles demandées par le Saint-Esprit. Souvenons-nous des paroles de l'Évangile. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, tu seras établi sur beaucoup. » Il faut savoir aussi que la fidélité à la grâce va attirer d'autres grâces. Au début, suivre l'Esprit Saint nous coûte, parce que cela nous oblige à nous remettre en question, à sortir de ce que nous connaissons bien, de nos habitudes, de l'image que l'on s'est formée. Cela peut raviver nos peurs, nos angoisses. Mais si nous restons fidèles à ce qui nous est demandé, cela va devenir source de joie. Et d'autres grâces vont suivre, qui fait que cela n'est plus une charge, mais nous donne une sensation de liberté. Je cours sur la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur, dit-on dans le psaume 119. L'Esprit Saint est aussi appelé le Consolateur, car il déverse dans notre cœur comme une onction de réconfort, d'encouragement et de paix. Une autre grande loi de la vie spirituelle, c'est que ce qui est capable de contenter nos cœurs, ce ne sont pas les biens que nous recevons, que le bien inspiré par Dieu que nous pratiquons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous allons maintenant donc, et ce sera l'objet du deuxième exposé, comment reconnaître et discerner ces sollicitations intérieures de l'esprit. Est-ce qu'elles sont valables pour tous? Quelle est la fréquence de ces sollicitations? Et comment favoriser leur présence dans notre vie spirituelle? C'est ce que je vous dis, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième.